Laudetur Jesus Christus.
Des millions de morts, des centaines de millions d'autres condamnés à vivre dans une pauvreté déshumanisante, c'est l'alarme lancée par Caritas Internationalis au sujet des coupes claires que le président américain veut appliquer à l'USAID, l'agence américaine d'aide humanitaire. Les conséquences de cette décision sont très concrètes, comme nous le verrons au Burkina Faso avec le secrétaire général de Caritas. Les écoles invitées à rouvrir leurs portes à Goma, mais y aura-t-il seulement des enfants pour y retourner? C'est l'interrogation des Salésiens alors que la ville congolaise a été conquise par les rebelles du M23. L'intelligence artificielle en question à Paris lors d'un sommet international, l'Église a son mot à dire. C'est ce que nous verrons avec Mgr Palia, le président de l'Académie pontificale pour la vie.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir, c'est une prise de position franche de la part de Caritas Internationalis contre la décision de l'administration Trump de réduire drastiquement les fonds alloués à l'USAID, à l'agence fédérale en charge de l'aide humanitaire. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Caritas dénonce ces coupes. Selon l'organisation, ce choix tuera des millions de personnes et condamnera des centaines de millions d'autres à vivre dans une pauvreté déshumanisante. Exemple, au Burkina Faso, où se trouve actuellement Alistair Dutton, le secrétaire général de Caritas Internationalis. Pour lui, la situation humanitaire y devient catastrophique et de nombreuses vies sont en danger.
Il va tuer millions de personnes qui ont vraiment besoin de cette aide immédiatement. Des centaines de millions plus vont souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cette décision. USAID fait plus d'une moitié de l'aide pour le Burkina dans les dernières années, dont les conséquences pour le pays sont très, très graves. Il va annuler l'assistance de nourriture, des médecins, de l'eau et de sanitation. Et avec tout cela, on aura un grand problème de santé publique et ils vont souffrir, c'est clair. Les conséquences sont immédiates et très, très graves. J'espère que cette décision va être renversée.
Alistair Dutton, secrétaire général de Caritas Internationalis. Les inquiétudes quant à l'avenir de l'aide humanitaire un peu partout dans le monde sont nombreuses, tant l'aide américaine est cruciale, on l'a vu. C'est le cas notamment en République démocratique du Congo et tout spécialement dans l'Est, au Kivu, alors que la progression des forces rebelles du M23, appuyée par l'armée rwandaise, a créé le chaos, notamment à Goma, la principale ville de la région. Certes, une certaine accalmie semble régner autour du lac Kivu et le retour à une vie quotidienne normale mal semble se dessiner. C'est le cas avec l'école. Les autorités du M23 ont en effet demandé aux établissements de rouvrir leurs portes. Mais à qui au juste? De nombreuses familles ont fui avec leurs enfants. Le père Dieudonné Sandé, directeur de la communauté salésienne de Goma, ignore combien d'enfants seront présents lorsqu'il pourra ouvrir ses écoles.
Ici chez nous, les camps étaient déjà devant notre parcelle. Ils n'étaient pas à l'internat directement, mais ils étaient devant la parcelle, c'est là qu'étaient installés les camps de déplacés. Après que la ville est tombée, on a demandé à ces gens-là de partir et le camp a été détruit. Chacun devrait rentrer dans son milieu. Donc chez nous, au moins les bébés que nous avons accueillis, les bébés dont les parents... Peut-être la maman était morte en accouchant, peut-être que les parents étaient morts en fuyant la guerre. Ce sont là les bébés qui sont à l'internat. Mais ceux qui sont en âge un peu avancé, ils étaient dans les camps avec leurs parents. Il y en a qui sont aux alentours dans les quartiers. Il y en a aussi qui n'ont pas l'intention de rentrer directement dans leur village. Et c'est à la rentrée de cours que nous saurons peut-être combien sont partis, combien sont restés, parce que nous avons déjà des listes bien établies.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Le contentieux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis au sujet de la loi sur l'expropriation va peut-être être tranché par la justice. Le deuxième parti politique du pays, l'Alliance démocratique, membre de la coalition gouvernementale, a déposé un recours devant la Haute Cour pour contester le texte polémique. Selon la DA, la loi est anticonstitutionnelle, trop vague et contradictoire, précise-t-elle. L'aide humanitaire au Darfour, elle serait entravée par les FSR, les forces de soutien rapide, autrement dit les paramilitaires qui luttent contre l'armée officielle et qui sont régulièrement accusés d'exactions contre les populations civiles. Les Nations Unies les accusent d'appliquer des restrictions persistantes et d'imposer des obstacles bureaucratiques. Conséquence, selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, ceux qui en ont désespérément besoin ne peuvent obtenir cette aide vitale, et tout particulièrement donc au Darfour. Du point de vue politique, c'est toujours la confusion près de 2 ans après le début de la guerre civile. Deux nouveaux gouvernements soutenant respectivement les deux belligérants pourraient bientôt être annoncés. Les explications d'Augustine Passillier.
Ces dernières semaines, l'armée soudanaise, qui a longtemps été en position de faiblesse depuis le début du conflit, a réalisé des avancées majeures. D'abord en reprenant en janvier Ouad Madani, une grande ville du centre du Soudan. Vendredi, c'est le quartier huppé de Kafouri, au nord de Khartoum, qui a été reconquis par les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan. Le lendemain, ce dernier a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement de technocrates qui devrait être instauré une fois que l'armée aura repris complètement le contrôle de Khartoum. Pour rappel, Burhan est à la tête d'un gouvernement intérimaire depuis son coup d'État d'octobre 2021, perpétré main dans la main avec son désormais ennemi, le chef des forces de soutien rapide surnommé Hemeti. Ses paramilitaires règnent dorénavant sur l'ouest du pays. Ils sont soutenus par une coalition de civils qui s'apprête de son côté à établir un gouvernement parallèle dont les missions seraient de protéger des civils, de fournir des services de base ou encore d'apporter une assistance humanitaire. La constitution intérimaire et la charte politique de cette nouvelle instance devrait être finalisé dans les 2 prochaines semaines. Le risque, c'est de diviser le Soudan, prévient un cadre de Houma, un des principaux partis politiques du pays des deux Nils. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
La confusion s'accentue en Roumanie après l'annulation de l'élection présidentielle en décembre dernier. Le président sortant, Klaus Iohannis, dont le mandat devait s'achever à la fin 2024, vient de démissionner. Il a justifié sa décision par sa volonté d'épargner au pays une crise. Il avait pourtant décidé de rester en poste jusqu'à la nouvelle présidentielle prévue en mai. Mais des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté ces derniers jours dénonçant un coup d'État. Le Parlement devait, lui, se réunir dans les prochains jours pour se prononcer sur sa révocation ou non. Ces investissements concerneront aussi l'intelligence artificielle, le secteur économique dont on parle le plus en ce moment, et bien notamment à Paris, qui organise avec l'Inde un sommet sur la question. L'Église y sera représentée, d'autant que sa parole est très attendue dans cette révolution cognitivo-industrielle touchant à la définition même de l'humain. Le président de l'Académie pontificale pour la vie, Mgr Palia, suit au Vatican le sujet de l'IA depuis longtemps, parcourant le monde pour présenter l'appel de Rome pour une IA éthique, signé il y a 5 ans avec des géants de l'informatique. Il s'est rendu notamment en Inde il y a 1 an pour le présenter et revient pour nous sur la nécessaire implication de l'Église dans cette révolution.
J'étais surpris dans ma visite à Seattle, le nombre des Indiens, beaucoup d'ingénieurs très jeunes de l'Inde. J'étais à Bangalore après, invité par la conférence des évêques de l'Inde, parce qu'ils comprennent que dans le terrain de l'Inde, ce thème est beaucoup développé, engage beaucoup les jeunes aussi. Alors dans ce sens, ils m'ont invité et à réfléchir autour de cette nouvelle frontière qui doit intéresser beaucoup l'Église. Il y a quelques années, dans un congrès de l'Académie pontificale pour la vie, un physicien japonais qui a créé un clone de lui-même disait que nous sommes la dernière espèce organique. La prochaine sera anorganique, au lithium. Alors, vous comprenez l'importance que toutes les sciences se retrouvent comme au temps du Renaissance pour sauver l'humanité. C'est dans ce sens que nous devons, tout le monde entier, croyants et non-croyants, poètes et physiciennes, philosophes et théologiens, devons inventer une alliance qui nous aide à sauver l'humain. Nous disons que le verbe est devenu cher, il n'est pas devenu avatar. L'Église a une responsabilité très forte.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. On l'a appris il y a quelques minutes, la branche armée du Hamas a annoncé reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza devant se faire en échange de celles de Palestiniens détenus par Israël. C'est dans le cadre de la trêve entrée en vigueur le 19 janvier. Le Hamas attend qu'Israël s'acquitte de ses obligations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30 heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.